Dictionnaire de la sagesse ancienne, avec David Goulois et Dominique Abdelnour. Cette émission présente les concepts fondamentaux de la sagesse ancienne, sagesse éternelle qui comprend les traditions initiatiques du passé et aussi les enseignements ésotériques modernes. Pour aller plus loin ou pour réécouter des émissions, vous pouvez vous rendre sur le site de David Goulois, www.sagesseancienne.com. Bonjour David.
Bonjour Dominique.
Alors aujourd'hui nous allons parler de la mère divine. La mère divine, la mère du monde, qui est la mère du monde? Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est un être vivant?
Alors on peut dire les deux. C'est déjà un concept universel dans toutes les traditions et surtout les traditions anciennes, parce que plus on va dans le passé, plus le culte de la mère du monde prend une importance majeure. Et donc la mère du monde, c'est le principe féminin de Dieu, si on pouvait appeler ça comme cela. C'est-à-dire, c'est la partie de Dieu, c'est l'aspect de Dieu qui crée, qui produit, qui engendre. Comme une mère qui engendre un enfant, elle porte l'enfant en lui-même et elle le met au monde. Et c'est relié au principe de la Trinité, en fait. Le principe de la Trinité n'est pas d'origine chrétienne, hein. C'est un principe que l'on voit partout. Dans toutes les traditions.
Alors, tu parles de la mère qui enfante un enfant. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le concept du père, de la mère et qui font un enfant dans la vie de tous les jours ou chez les êtres humains, chez les animaux, c'est aussi vrai dans un niveau bien plus élevé, un niveau divin, créateur.
Voilà, un niveau archétypal. Alors, si on dit Dieu, Dieu le père, Dieu la mère, c'est bien sûr, c'est une forme d'anthropomorphisation de la chose, mais ça reste des concepts et des énergies réelles. Et donc le Père représente le premier aspect, l'aspect qui vivifie, qui donne vie, qui donne l'impulsion, c'est la volonté, c'est la vie, la puissance de vie. Et la Mère est le pôle opposé, c'est le pôle qui reçoit cette vie, cette semence, et c'est l'intelligence universelle, c'est ce qui va, à partir de cette semence, intelligemment produire les formes dans le monde et faire naître notamment le fils, c'est-à-dire le fils, la fille, le principe qui était en fait médian, qui unit le père et la mère, ou le résultat de cet amour, en fait, c'est le fils, c'est la conscience qui est le résultat de l'esprit et de la matière. Donc la mère, c'est celle qui produit tous les univers, notre univers, mais également il y a une mère du monde pour cette planète. Un principe générateur, et on l'observe constamment dans la nature.
Tu peux expliciter comment on l'observe dans la nature?
Eh bien, quand on observe la nature, c'est ce que font les scientifiques, ils l'observent, ils l'étudient, on se rend compte qu'il y a une intelligence qui organise cette nature, qu'il y a des principes, des lois, pareil dans tout le cosmos. Il y a des lois qu'on a découvertes en astrophysique, par exemple, et cette intelligence provient de ce principe féminin, de la mère divine, qui, quelque part, représente Dieu, Dieu le Créateur. Dieu le Créateur, c'est la mère du monde, c'est pareil. Et ce principe-là pense les choses d'une façon abstraite, archétypale, sur des modèles, sur une structure qui va après se dupliquer quelque part, X fois, à des niveaux de plus en plus petits. On part du macrocosme vers le microcosme, mais il y a des mêmes lois, des mêmes principes. Et l'intelligence, c'est ce qui a conçu, c'est un petit peu l'architecte, hein, c'est le grand architecte quelque part du monde, celui ou
Qui
celle,
organise la matière?
voilà, qui la pense avant, qui l'engendre et qui la modèle selon des lois, des principes. Alors c'est un concept un peu différent de l'image qu'on se fait de la femme, parce qu'on a tendance à ne pas associer la femme à l'intelligence,
Ça, c'est vrai,
et
c'est
c'est une
vrai.
erreur. C'est une erreur profonde parce que le féminin porte l'intelligence et incarne l'intelligence. C'est pas seulement la sensibilité comme on a toujours tendance à le penser.
Et une intelligence concrète qui est liée à la vie, à la matière, à l'existence. Une sorte d'adaptation au monde environnant.
Oui, on peut dire ça. Alors, on dit que les femmes ont aussi l'esprit plus pratique. Je pense que c'est vrai aussi. Mais c'est lié à ce principe de l'intelligence où le principe féminin, c'est ce qui est fait pour penser les choses et pour les mettre au monde, pour les réaliser, pour les produire. Et donc, c'est ça que représentent les diverses mères du monde dans les différentes traditions, dans les mythologies et y compris dans les religions.
Mais d'accord, je comprends qu'il y a un modèle archétypal des principes. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus un être quasi divin qui est la mère divine et qui s'occupe de notre terre?
Alors, dans les enseignements ésotériques, on considère qu'il y a des hiérarchies d'êtres en fonction du plan d'évolution où l'on se trouve, du niveau où l'on se trouve. Donc pour la Terre, il y a un dieu planétaire, si on peut dire, et une divinité planétaire qui est aussi polarisée, et il y a une mère du monde, un grand être qui représente le côté féminin de cet être et qui a donc engendré toutes les substances, les matières. Quand on dit substance matière, il faut pas seulement comprendre la matière dense, mais toutes les substances plus subtiles, parce qu'on considère que la matière est simplement la substance à son degré le plus bas, mais il y a une substance éthérique, donc une substance émotionnelle, mentale et d'autres substances plus subtiles encore, et ça, ce sont les produits de la mer. Et la mer en tant que telle, ça serait le principe suprême de cette substance, la source de cette substance. On dit Akasha par exemple. En Inde, c'est l'espace, mais c'est pas seulement l'espace physique, c'est l'espace subtil, c'est la source de tous les éléments, y compris les éléments subtils. Et la mer donc c'est celle qui va générer ces éléments. Et à ce niveau, en fait, elle assiste le Père, elle utilise cette vie, cette énergie, pour faire en sorte que cette substance homogène, cette substance indifférenciée, on parle d'Immaculée Conception pour la Vierge Marie, c'est tout simplement cette idée qu'il y a une substance complètement vierge qui va être imprégnée par ses modèles, par ses plans. Donc cette substance va prendre peu à peu des formes, va au fur et à mesure descendre, si on pouvait prendre cette image, vibratoirement, les énergies vont s'abaisser, et au fur et à mesure, ce qui était en modèle va peu à peu se manifester, se densifier.
C'est là qu'on voit basiquement apparaître les atomes, les êtres, les rochers, etc. Tu veux dire qu'il y a une espèce de substance primordiale indifférenciée, et il y a un moment où il y a enfin un moment, je ne sais pas si le temps existe à ce moment-là, donc il y a l'étincelle divine, le masculin, qui se manifeste et qui ensemence cette substance, c'est ça?
Oui, les Indiens disent qu'il y a prana, ça serait la vie, le souffle, vraiment proprement dit, l'énergie de vie, et l'akasha, et donc quand prana et akasha se rencontrent, donc la vie dans l'espace, et bien à ce moment-là, donc cet espace, il est vierge, et en même temps, il a un programme qui va faire en sorte que ce programme va au fur et à mesure se densifier, se manifester. Mais tout ce qui existe, on retrouve ça dans la philosophie de Platon, hein, tout ce qui existe est donc le monde sensible, c'est simplement la manifestation d'un monde intelligible, un monde archétypal. C'est-à-dire que tout ce qui existe a une copie, quelque part, vient d'une matrice. Il y a un schéma, il y a un plan, et qui fait que lorsque ce plan est mis en action, les choses se créent, se manifestent. Donc tout a un double subtil, par exemple. Les maisons, les voitures, nous, on a un double subtil, et ce double subtil a un double encore plus subtil, etc. Et on remonte
sont
comme
les
ça.
différents plans éthériques,
Voilà.
astral,
C'est ça.
mental, etc.
Il y a un
Oui.
modèle énergétique, il y a un modèle sensible, mental, enfin voilà, il y a des modèles
Il y a un
comme ça.
modèle pour chaque espèce, pour chaque être humain, pour chaque arbre, chaque type d'arbre, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et la mère du monde, c'est la grande mère justement de tous ces
C'est la
êtres-là.
gardienne de tous ces modèles,
Voilà,
alors.
c'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Shakti? Parce que c'est un terme dont on entend souvent parler, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. On a une vague impression de féminin, mais on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire.
Alors, les Indiens ont, à partir d'un moment, essayé de mettre une forme à des concepts très très abstraits, de leur donner une forme. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le terme Shakti et avec les déesses. Les Shakti, donc, ce sont les différentes déesses des dieux. Chaque dieu a sa Shakti, sa déesse. Et en fait, c'est l'idée que le dieu ne peut pas agir directement. Il agit dans le monde avec sa Shakti, donc avec son énergie, sa substance à lui.
Alors attends, parce que déjà tu dis le Dieu, l'énergie, c'est pas, ça fait pas partie de Dieu, c'est autre chose, c'est la Shakti.
Oh, j'utilise des termes pour essayer de bien distinguer l'énergie père, l'énergie mère. Mais c'est l'idée que la source des choses, c'est le père, mais que le père, il a besoin de la mère pour que ces choses se manifestent, se produisent. Et la Shakti d'un dieu, c'est presque son apparition, on pourrait dire. On a le mot nuée dans la Bible. On a des mots comme ça, nuée, colonne de feu, enfin cette idée d'une manifestation de Dieu, et c'est la Shekhinah, c'est la présence, et ça vient de la même racine, d'une racine sanskrite, qui est shak, qui a donné shake en anglais, secouer, vibrer, agiter plutôt. Et en fait, la Shakti, c'est ça, c'est le pouvoir du Dieu qui est mis en branle. Il est activé. En fait, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'un côté un Dieu et une déesse quelque part, mais il y a l'énergie à la source qui, à ce moment-là, devient, qui passe dans la substance et qui l'agite, qui la fait vibrer, qui lui donne des formes. Et c'est ça la Shakti.
Donc c'est une sorte de double, le principe féminin est une sorte de double du principe masculin.
Voilà. Ils marchent toujours ensemble. Le principe féminin a besoin d'être activé par le principe masculin, et le principe masculin a besoin du principe féminin pour se manifester. Donc la Shakti ou la Shekhinah, qui était la présence de Dieu pour les Juifs, c'est l'apparition, c'est la manifestation.
Alors, donc, ça, je crois qu'on a compris le principe masculin, le principe féminin. Et on parle aussi dans les religions de la Trinité, le Dieu, le Père et la Mère et le Fils. Donc, il y a une famille et que notre famille, notre cellule familiale d'être humain, finalement, elle existe à des niveaux bien plus élevés.
Oui, mais il faut toujours préciser qu'il faut pas. C'est une forme d'anthropomorphisation, c'est-à-dire on donne une forme humaine à ces choses-là pour mieux les comprendre, mais que en amont, c'est plus des énergies, hein, des aspects. En fait, le terme, ça serait aspect. Il y a des aspects au Dieu absolu. Le Dieu absolu prend trois aspects avant que le monde se crée, en fait. Il revêt trois aspects. Et il y a, comme tu dis, le Père. Alors, c'est Shiva en Inde. C'est Dieu le Père, c'est la puissance, c'est la volonté. Il y a le deuxième aspect médian qui est Vishnu, ou le Christ, l'amour, et la mère. Et donc la mère, c'est le principe créateur, comme on l'a dit, ça représente Brahma. Et c'est le Saint-Esprit des chrétiens. Donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il faut savoir qu'à l'origine, le Saint-Esprit, c'était un mot féminin. Parce que le mot esprit, ruach, c'est un mot féminin. Et on a d'ailleurs les traces de cette origine féminine dans le mot Saint-Esprit, parce que les premiers pères de chrétiens, les premiers pères chrétiens, pardon, considéraient que le Saint-Esprit était notre mère. Il y a même un passage d'un vieil évangile, l'évangile des Nazaréens, qui porte différents noms, mais il y a ce passage où il est clairement fait référence au Saint-Esprit comme notre mère divine.
Je crois qu'on s'embrouille un petit peu dans les termes, parce que esprit pour dans le quand on parle d'esprit, on a tendance à se rapporter à l'aspect masculin, à l'aspect père, et Saint-Esprit, tu dis, c'est plus relié à l'aspect mère.
Oui, parce que ça dépend dans les traditions comment on utilise les termes aussi. C'est que on a voulu dire que l'esprit de Dieu se manifestait. En fait, c'est ça le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Dieu qui se manifeste, et il est saint, il est pur. Et il se manifeste, et en fait c'est le Saint-Esprit qui crée l'univers, qui aussi descend en l'homme et qui l'habite. C'est pour ça qu'il y a toujours cette recherche de du contact avec le Saint-Esprit. C'est très fort maintenant dans les mouvements évangéliques, par exemple, où maintenant les chrétiens essayent vraiment d'être inspirés, adombrés, on pourrait dire, insufflé de cet esprit, mais c'est une sorte de... C'est un peu l'esprit de Dieu, mais dans le monde, en fait. C'est quelque chose qui vivifie, qui fait vivre, qui inspire. On parle même des différents dons du Saint-Esprit. On en compte 7, souvent. Et voilà, ce sont les manifestations, on pourrait dire, de Dieu le Père à travers la mer. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot Saint-Esprit. Mais je préfère parler, moi, de Mère divine. C'est plus... C'est plus clair pour différencier le père de la mère.
Dans cette seconde partie, nous allons parler de la tradition chrétienne, hein, puisque nous sommes en France, un pays où il y a beaucoup de chrétiens. Donc, le Marie, c'est le principe de la mère, hein, c'est la mère du Christ. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a derrière Marie, derrière ce symbolisme, derrière cette histoire?
Alors, je vais citer le très beau passage de l'évangile de Saint-Luc. C'est le verset 1:35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et il y a cette très belle expression, couvrir de son ombre. Alors c'est un terme grec, c'est episkiasio. Et c'est en anglais c'est tout overshadow, donc on va dire adombré. Couvrir de son ombre, mais en fait, ça serait plutôt recouvrir une ombre. Ça serait meilleur comme traduction. C'est-à-dire que Marie ici représente l'ombre, le reflet d'un principe plus grand, qui est le Saint-Esprit, la mère du monde. Et Marie, qui va faire naître l'enfant Christ, elle représente symboliquement sur terre ce qui se passe au niveau métaphysique quand la mère du monde crée l'univers et elle fait naître et elle permet au Fils, c'est-à-dire à la conscience universelle, de s'exprimer dans la création. Et en fait, c'est ce que Marie fait à un niveau humain et c'est ce que toutes les mères font lorsqu'elles donnent naissance à leur enfant. Et l'enfant représente la conscience, c'est-à-dire l'union du père et de la mère. L'union de l'esprit, de la matière, si on veut, c'est la conscience, c'est l'âme quelque part. Et le Christ représente l'âme. Et donc Marie et quelque part une sorte d'avatar, d'incarnation, de manifestation sur terre du Saint-Esprit. À tel point qu'au fur et à mesure, il va y avoir une mariolâtrie, un culte marial très fort, et au fur et à mesure, Marie va se substituer elle-même, et elle va se confondre avec la mère du monde. C'est pourquoi on va dire que Marie est immaculée, on parle d'immaculée conception.
Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi, d'où vient, d'où provient, que signifient ces notions de virginité, d'immaculée conception, de pureté, etc.
Alors c'est un principe métaphysique, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire que avant que tous les éléments soient créés, le feu, l'éther, l'eau, la terre, enfin je donne ça dans le désordre, hein. Mais il y a un principe subtil, homogène, qui est pur. C'est-à-dire avant l'air, avant le feu, l'eau, la terre, il y a l'éther, à des niveaux de plus en plus subtils, et un niveau archétypal, c'est quelque chose qui est complètement pur. Et c'est ça l'idée que la conception vient d'une substance vierge, en fait, que les Indiens donc appellent l'akasha, une substance complètement vierge et qui va être imprégnée de la volonté de Dieu et de l'intelligence même de la mère qui va donner forme à cette substance. On a cette image avec le japonais qui a fait des tests avec l'eau. Il a vu que la musique crée des formes dans l'eau. Donc on a parfois comparé l'akasha à de l'eau céleste. Et on sait que l'eau mémorise beaucoup, donc il faut se représenter ça peut-être comme une sorte de, pas de liquide, mais une sorte de substance complètement homogène, vierge, et dessus tout peut s'imprimer, tout peut prendre forme. Et donc la mère du monde, elle, c'est un peu le réservoir de cette substance qui va au fur et à mesure prendre des formes qu'on appelle les éléments, et des éléments à des niveaux subtils qui au fur et à mesure vont donner la matière avec les éléments que l'on connaît. Donc voilà ce que représente cette notion d'immaculée conception, et on a donc fait une translation entre la femme qui était vierge, ça voulait dire jeune en fait à l'époque, hein. Ça veut dire qu'elle était vierge vraiment, elle était jeune, et voilà, elle était pure, elle était son âme quelque part était pure, elle était prête pour faire venir un grand instructeur, c'était pas n'importe qui. Et on a beaucoup de fils de Dieu qui viennent de mères qui sont vierges.
Tu peux nous donner d'autres exemples?
On disait que Mitra était née d'une vierge, on dit que Devaki aussi était vierge, la mère de Krishna, on a Mira avec Adonis, ou alors on a même les mêmes noms, on a par exemple Maya chez les Grecs, qui est la mère de Hermès, c'est une Pléiade, et il y a Maya avec un Y qui est la mère de Bouddha, et elle est comme enfantée par un éléphant, qui représente la force, la puissance de l'Inde, hein, la sagesse aussi, quelque part. Et on a voilà des sortes de naissances, de conceptions miraculeuses. Et c'est tout simplement à la base un principe métaphysique. C'est-à-dire que les femmes représentent le principe de la virginité primordiale. L'univers était vierge, et à partir de cette virginité, le monde a pu se créer. C'est tout simplement un symbole métaphysique. C'est pas une réalité historique, bien sûr.
Oui, c'est ça on a tendance des fois un petit peu emmêlé entre le personnage historique, Marie ou peu importe, et puis le symbolisme qu'il y a derrière, les archétypes qui sont derrière, qui correspondent à une autre réalité et qui sont portés par ces personnes, par ces mythes, alors finalement.
Oui, tout à fait, et ça va loin. On a aussi ce culte de la pureté dans l'islam, et ça a été après mal interprété, mais on a cette même idée que la femme doit rester pure, doit rester vierge, alors avant son mariage, mais quelque part elle doit aussi garder une certaine pudeur, et elle doit être respectée, il y a respectée dans cette pudeur, et c'est la même idée, c'est une notion de pureté virginale, de pureté originelle. Et on a aussi d'autres déesses comme ça qui vont même être associées à la couleur du blanc. Parce que la blancheur rappelle cette virginité. On a la déesse Tara qui est souvent représentée blanche. La déesse Tara, c'est la Shakti quelque part, c'est la parèdre du Bouddha, ou enfin des différents Bouddhas. Chacun a sa Tara quelque part, et c'est un autre nom pour la mère du monde. Et elles sont pures, elles sont vierges, elles sont blanches aussi, ces couleurs de la lune. Et la lune représente le principe féminin en général. Pas toujours selon les traditions. Des fois c'est masculin, mais dans nos traditions à nous, la lune est féminine. Et c'est pourquoi on voit toujours des maris qui écrasent des lunes, par exemple, des croissants de lune. Ou alors on représentait Isis avec des croissants de lune sur la tête, comme des cornes de taureau aussi, comme Hathor. Et c'est le fait d'associer le féminin à la lune qui est la mère des formes, la lune qui est aussi blanche et qui reflète la lumière du soleil, comme à la pleine lune. C'est le côté passif, le fait que l'on reçoit quelque chose et qu'on va l'intégrer pour le transformer et donner autre chose. C'est ça en fait que fait la mère du monde.
Le principe féminin, en
Ouais.
fait, hein? C'est passif, il reçoit, mais pour redevenir actif et
Voilà.
transformer et faire naître,
Pour donner naissance.
donner naissance, oui. Alors, est-ce qu'on peut parler des différentes traditions. Moi, j'ai en tête chez les Chinois la mère divine Xu Wang Mu, qui
Attends,
était
je vais t'aider.
une
C'est
mère
Xi
de.
Wang Mu.
Ah, je suis mauvaise alors. Qui est la mère de huit immortels.
Voilà. Alors ça aussi, c'est intéressant. Alors, elle forme le neuvième chiffre. En Chine, on a beaucoup ce qu'on appelle les pakwa. Ce sont des symboles avec ces huit trigrammes comme ça. Et au centre, il y a le neuvième principe quelque part, hein. C'est en fait les quatre points cardinaux avec le cinquième. Et on donne des points intermédiaires, hein, comme dans la Rose des Vents avec on dit nord, sud, est, ouest. Et puis on dit aussi nord-ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest. Donc ça fait huit directions. Et avec le principe au centre. Et cette déesse, c'est l'ancêtre de Kuan Yin, qui est l'équivalent de la Tara bouddhiste, hein. Et elle est donc plus ancienne, parce qu'elle est reliée au taoïsme, à une vieille religion en Chine. Et au fur et à mesure, on lui a associé justement cette notion aussi de virginité. Alors elle est toujours, comme beaucoup de déesses, elle est drapée. Elle est souvent représentée en blanc et elle représente en fait une sorte d'élixir d'immortalité. Et ça représente toujours ce principe de l'akasha, de la pureté. Ces différents immortels sont nourris par cette déesse. C'est elle qui est la mère, celle qui nourrit ce principe d'immortalité et que donc elle est quelque part la mère des immortels. Et tous les immortels représentent différents principes, éléments qui se fusionnent en elle. C'est un principe alchimique quelque part. Donc comme on disait, s'il y a la terre, l'eau, le feu, l'air, et puis même l'éther, il y a un principe encore plus élevé qui absorbe tout ça. Ça représente ça, Si Wang Mu, quelque part. Elle est donc là. Elle représente la pureté, l'immortalité. Elle est reliée à un paon, souvent, plutôt un phénix, mais on a des fois le paon, le phénix, selon les traditions, tous ces animaux, parfois qui tuent des serpents, ou le phénix, c'est un animal qui renaît de ses cendres, et on a toujours cette notion de régénération. Donc c'est que l'idée que la mère représente, garde le secret de la semence, en fait, de l'origine de l'être. Elle garde ce principe-là, ce principe de pureté. Et Si Wang Mu, voilà, elle est vraiment, un symbole alchimique et une mère qui aussi a été beaucoup invoquée pour protéger les enfants. On pense qu'à l'origine, c'était même une déesse peut-être d'un ruisseau ou d'une grotte, enfin une déesse végétative qui a pris une grande ampleur et elle est devenue une sorte de mère protectrice des enfants. Et c'est intéressant de voir que celle qui va la remplacer, Kuan Yin, qui est Tara, la Tara bouddhiste, elle va avoir aussi un rôle pareil. Identique, elle va protéger les enfants. En fait, elle protège ce qui est vulnérable, ce qui est en germe et ce qui doit croître. Et l'enfant, ça peut être l'enfant physique, les enfants physiques ou tous ceux qui sont vulnérables, qui ont besoin d'éducation, de protection, de nourriture, mais elle peut représenter aussi l'enfant spirituel en nous. Et il y a beaucoup cet archétype du petit enfant spirituel, un être qui va grandir en nous, qui est notre divinité. Et le plus haut niveau de la mère, c'est quand la mère fait croître et nourrit cet être spirituel en nous, et plus seulement la matière, comme la Vierge qui fait naître, qui permet au Christ, à Jésus, de devenir Jésus-Christ, en fait,
Oui, c'est
elle
la mère du
accompagne.
Fils de Dieu.
Voilà.
Donc, oui, c'est un niveau beaucoup plus élevé, mais il y a toujours cet aspect de faire croître, supporter, etc. Il y a d'autres qualités qu'on attribue à cette mère symbolique. On parle beaucoup de sagesse, par exemple.
Oui, la sagesse reste une vertu féminine. Alors ça, c'est quand on est dans un binaire, quand on va opposer par exemple la puissance, la force avec la sagesse. À ce moment-là, la sagesse représente
Ah oui,
quelque chose
il y a la
de.
puissance, la force et puis la sagesse. D'accord, on
C'est hein, c'est
oppose.
quelque chose
On
de
oppose.
féminin. C'est quelque chose qu'on va associer à la mère. Et on a chez les gnostiques chrétiens Sophia, qui est l'équivalent du Saint-Esprit. Hein, et Sophia, c'est donner le prénom Sophie. Hein, Sophia, c'est la sagesse. On a Chochmah chez les Hébreux. C'est la sagesse. Et Lakshmi en Inde. Et par exemple, les Hébreux pensent que. Ils pensent pas. Les Hébreux, enfin les Juifs maintenant, comme les musulmans, ne croient pas en la Trinité. Mais ils pensent qu'il y a un principe de Dieu, une sorte de sagesse divine qui descend sur les prophètes. On a encore un rapport avec le féminin, avec la mère des taoïstes, et bien là, c'est Chokhma, c'est le principe de la sagesse qui est descendu sur plusieurs prophètes. En fait, c'est un autre mot pour le Saint-Esprit, hein. Et le Saint-Esprit, bah, c'est l'ange Gabriel, en fait, dans l'islam. Gabriel, l'ange Gabriel, qui est rattaché à la lune d'un point de vue kabbalistique, encore une fois. Donc, on voit que c'est une sorte d'énergie de Dieu qui descend, un souffle intelligent, on pourrait dire, quelque chose qui descend et qui va inspirer. Ça inspire, ça descend sur les prophètes. Les juifs pensent qu'il y a une succession de prophètes comme ça qui ont été inspirés par Dieu, et les musulmans reprennent ces prophètes-là. Ils rajoutent Jésus comme un prophète jusqu'à Mohammed, certains jusqu'à Ali, même après d'autres séries d'imams. Mais c'est l'idée qu'il y a une chaîne initiatique quelque part d'envoyés de Dieu qui ont été inspirés par cette sagesse. Donc c'est quelque chose qui peut nourrir l'âme aussi quelque part. Ça, il y a un aspect matériel à la mère du monde. Elle nourrit, elle donne naissance à la substance et elle donne des substances. Par exemple, quand on mange, on prend quelque chose de la mère du monde. On prend des végétaux, on prend de l'eau, on sacrifie quelque chose à la mère du monde. On lui prend quelque chose, on lui prend du matériel, de la substance. Mais la mère du monde, à un niveau plus élevé, elle est celle qui va nourrir la sagesse en nous. Elle est celle qui va faire nourrir, qui va permettre au Christ, à la conscience en nous, de grandir. Et ça, c'est le niveau le plus élevé de la mère du monde. C'est pas seulement faire naître la matière, mais c'est pour que la matière puisse abriter, être habitée par quelque chose qui n'est pas la matière, qui est la conscience d'abord, et puis après, à un niveau plus élevé, le Fils révèle le Père après. Donc le but en fait de la mère depuis le départ, c'est de créer de la matière, créer une forme aux choses pour que le monde existe. C'est faire en sorte que la conscience puisse l'habiter, que le Fils, donc elle permet au Fils de la remplacer. C'est pour ça que dans les traditions, on a souvent une mère qui apparaît, puis son fils, et puis son fils qui se marie à sa mère, qui devient son amante, etc. C'est pour montrer tout simplement que le principe de la conscience, après, prend le dessus sur la matière. Et après, quand le principe de la conscience prend le dessus sur la matière, le fils laisse la place au père. Donc tout est accompli. La mère a fini son travail, le fils a lui aussi fini son travail, il a permis au père de se révéler jusque dans le monde de la matière.
Dans cette troisième partie, nous allons parler des différents attributs de la mère. Alors, tout d'abord, on voit souvent les déesses, les femmes dans des drapés, avec des voiles. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière tous ces drapés et ces voiles?
Oui, les vêtements représentent les vêtements de Dieu, c'est-à-dire sa substance. Ce sont des véhicules, en fait. Des vêtements, quelque part, c'est ce qui nous... C'est comme une voiture qu'on utilise quelque part, c'est aussi un véhicule, et bien les vêtements, on se recouvre avec. Et il y a l'être intérieur qui se recouvre avec des vêtements. Et Dieu fait la même chose quand il vient dans le monde quelque part, quand il se manifeste, il prend des vêtements. Et les vêtements, c'est les corps subtils, c'est les plans subtils, à des niveaux ou d'autres. C'est pour ça qu'on a des vêtements de textures différentes, de couleurs différentes. Et il y a même les plis, les jolis drapés, ça représente aussi des couches, des strates, symboliquement. On a toujours des très belles représentations comme ça de femmes qui sont donc toujours drapées, voilées. Alors le voile, c'est encore autre chose. Le voile, il y a cette idée que Dieu est obligé de se manifester à travers un voile, c'est-à-dire à travers une substance.
Donc il se cache quelque part, il est un petit peu Bon, voilé, ça veut dire
Oui, c'est
dissimuler un
ça,
petit
quelque
peu.
part. On voit Dieu à travers, si on regarde des arbres, si on regarde les choses dans le monde, tout ça, ce sont des voiles, quelque part. Ce sont presque des symboles de quelque chose de plus élevé, comme Platon qui parlait du monde sensible, qui était le reflet du monde intelligible. Eh bien, même dans la création, elle-même, elle est une sorte de drapé, de voile, et on représente même souvent les mères divines. Voilé, donc ça vient pas du tout de l'islam à la base, hein. On a représenté parfois la Vierge voilée, parce qu'elle était elle-même copiée sur Isis, qui représentait parfois voilée. Et on a cette notion aussi du sanctuaire. Par exemple, dans le sanctuaire juif, il y a le Saint des Saints, c'est le cœur du sanctuaire, et c'est là qu'il y avait la Shekhinah, la présence de Dieu. Il y a beaucoup d'archétypes féminins qui sont présents dans la religion juive, qui est pour moi féminine en fait quelque part. Hein. Il y a beaucoup d'éléments féminins, y compris dans l'islam ou qui est représenté par un croissant de lune d'ailleurs. Eh bien, la Shekhinah, la présence de Dieu, elle est, il faut soulever le voile. Hein, dans le sein du saint, c'était vraiment le cœur du temple. Il y avait un voile, et si on le, on ne soulevait donc ce voile qu'à des moments précis, et quelque part ça dévoile la présence de Dieu. Donc il y a l'idée que Dieu en nous il est caché par différents voiles, et ces voiles, ce sont les différentes substances des plans. On a un voile physique, on a un voile éthérique, astral, mental, et puis d'autres encore niveaux comme ça. Et plus on découvre, d'ailleurs, on parle de découvrir, c'est enlever quelque chose qui couvre. On a encore cette notion d'adombrement, hein, de couvrir, couvrir par une ombre. Quand on enlève une ombre ou un voile, on a une plus grande lumière derrière. Puis on découvre encore, on a encore autre chose. Donc c'est ça la symbolique de des femmes archétypales voilées. Malheureusement, ça a été pris au pied de la lettre dans certaines pratiques musulmanes qui vont, on sait, jusqu'à recouvrir entièrement les femmes, mais ça dépend des interprétations qu'on fait du Coran, parce que ça dépend du mot tissu. Il y a le mot qui apparaît souvent, et ça a été traduit par voile, ça a été. Mais à la base, il semblerait que le prophète ait demandé aux femmes de se couvrir la poitrine et les jambes. Parce qu'à la Mecque, il y avait beaucoup, à mon avis, d'esclaves, femmes aussi, hommes et femmes. C'était une plaque tournante marchande, la Mecque, et il y avait sûrement des femmes aussi dévoilées. Il y avait peut-être la prostitution, et on a voulu que les femmes musulmanes gardent leur pudeur. Et voilà, au fur et à mesure, on voit comment un concept tout simplement de pudeur peut aussi évoluer quand il se mêle à des concepts métaphysiques vers ce qu'on connaît, hein. Mais il y a aussi l'idée que parfois les religieuses, même chez les chrétiennes, se cachent les cheveux aussi, hein.
Bah, elles ont, bien sûr,
Hein, elles sont
elles
toutes.
ont un voile, hein, on voit pas du tout leurs cheveux.
Parce que les cheveux, les Chinois disent que c'est l'ornement des reins et des organes sexuels. Il y a toujours une dimension symbolique sexuelle dans les cheveux, dans la sensualité. Mais à l'origine, il y a un concept métaphysique, c'est celui des mères divines qui sont le voile quelque part, qui sont voilées parce qu'elles sont le voile de quelque chose derrière qu'on pourrait appeler l'absolu, hein, l'absolu ou Dieu le Père si on voulait faire un raccourci avec l'absolu. Il y a aussi l'idée que la nature, il y a des mystères et donc il y a des voiles. On n'a pas accès à cette intelligence divine
Oui,
et
c'est caché.
c'est,
Le
c'est,
voile
il y a une
est là
sagesse
pour
derrière.
cacher. Oui.
Et la mère divine incarne cette sagesse, cette intelligence, on peut les lier là. Cette sagesse, cette intelligence, on n'y a pas accès, on ne voit que ses manifestations.
Autre symbole dont on voit souvent que, par exemple, le Saint-Esprit est représenté par une colombe avec des ailes. Alors, il y a aussi des nymphes et quelques divinités qui ont souvent des ailes.
Oui.
Quelle est est-ce que ça a une signification?
Oui, on a les apsaras, on voit ça beaucoup en Inde et dans tout l'Extrême-Orient même, parce qu'il y a l'hindouisme et même à travers le bouddhisme, l'hindouisme et le bouddhisme ont amené ces représentations de nymphes. Alors on les voit parfois avec des grands drapés aussi. On a ça aussi en Chine, hein, avec des grandes déesses, des grandes manches. Et elles représentent, c'est ça, c'est une forme de volupté. Ce sont en fait des anges quelque part. Ce sont des oiseaux. On a toujours associé les anges aux oiseaux. Parce que les anges agissent à travers les oiseaux et les oiseaux sont des messagers de Dieu. Et qu'est-ce que c'est les anges, ou les devas, ou les apsaras, toutes ces divinités-là? Ce sont les forces de la nature, en fait. Ce sont la nature avec un grand N, hein. Pas la nature seulement végétale, animale, minérale, c'est la nature en termes de manifestation, le monde cosmique, hein. Et les anges sont les forces de la mère du monde. Quelque part, de la mère du monde émanent des forces angéliques, des archanges. Alors on a toute une cabale comme ça, avec des principautés, des dominations, des archanges, voilà, il y a toute une hiérarchie qu'on a dans diverses traditions. Et ce sont les forces de la nature, les rayons quelque part, les manifestations de la mer. Et on a beaucoup associé donc le règne des oiseaux. Donc les plumes, les ailes, on voit Maat ou Isis en Inde qui sont avec des plumes. On les voit ouvertes comme ça avec les bras en forme de... Je cherche le mot d'ailes, c'est ça, des ailes. On a Ahura Mazda même en Perse, il est toujours représenté avec les bras ouverts et avec, c'est ça, comme un grand oiseau. On associait toujours le Saint-Esprit donc à l'oiseau, à la colombe, parce que c'est la pureté. Et parce que ça vient du ciel, et encore une fois, c'est comme cette sagesse, cette intelligence qui descend sur nous. Et on peut même citer dans certains rituels chrétiens, ou lors d'ordination ou de cérémonies sacrées, on ouvrait la Bible et on le mettait dans le dos. Et un livre ouvert, ça fait comme des ailes. Et on le mettait dans le dos, à l'endroit des omoplates qui sont, pense-t-on, là, une sorte de réminiscence
C'est des ailes, oui, les
De nos
omoplates.
anciennes petites ailes quand on était embryon, quand on est passé par le stade reptilien, on est passé un moment, pas longtemps, par le stade des oiseaux pour arriver au stade des mammifères. Et on a gardé cette petite queue de serpent, là, le coccyx, et on a gardé ces petites ailes en nous
Qui sont
qui
nos
sont,
omoplates.
nos omoplates. Et donc voilà, les oiseaux, c'est relié à ce... Ange, ça veut dire messager en grec. Donc quand on dit ange messager, c'est redondant. Les anges sont toujours messagers. Symboliquement, enfin étymologiquement. Et les anges en plus viennent du ciel. Donc on a un autre attribut, c'est les étoiles.
Oui, alors justement, souvent on parle de Ishtar Isis, c'est les reines du ciel, il y a des étoiles, qu'est-ce que ça signifie là? Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc on peut faire le parallèle déjà avec les oiseaux. Les oiseaux, ils vivent dans le ciel, ils volent dans le ciel. Et en effet, même la Vierge Mère, on la représente étoilée. Je parle de Marie, hein. Elle est représentée avec 12 étoiles, rien à voir avec l'Europe. Mais quelque part, même dans la symbolique européenne, c'est intéressant, on a même repris toujours les représentations anciennes de Marie avec les 12 étoiles. Ce sont les 12 constellations, mais quelque part, c'est la voûte céleste. On a Nout aussi en Égypte, qui était la reine du ciel, et donc Ishtar, comme tu dis, Isis aussi quelque part. Alors pourquoi elles sont des reines célestes? Ça reprend toujours encore cette idée de substance originelle. C'est elles qui ont permis que le ciel même soit créé. Avant qu'il y ait la terre, il y a eu un ciel, et elles ont donné naissance à ce ciel. Même si après, dans la manifestation, on va associer le ciel au Père et la terre à la mer, mais si on est dans l'ensemble de la manifestation, il y a d'abord toutes ces étoiles, ces ciels. Et donc ce sont des déesses célestes à la base qui vont devenir plus terrestres après. Mais elles ont d'abord commencé à engendrer le ciel, toutes ces étoiles. C'est comme des sortes de paillettes, d'éclatements, de pétillements de leur énergie
C'est
partout.
dire que l'univers est un finalement, que nous sommes tous reliés aux étoiles.
Aussi, c'est le fait que la mère du monde contient l'univers. Et elle contient toutes les forces qui sont à l'origine de notre Terre, et c'est des forces stellaires en fait, hein. Ce sont des étoiles, hein. Les énergies qui arrivent sur Terre, elles viennent des étoiles. Donc la mère du monde, c'est une mère cosmique en fait, quelque part. La mère céleste, elle est avant tout cosmique. On pourrait dire qu'il y a une mère, ésotériquement, il y a une mère à chaque niveau. La mère du monde est représentée à chaque niveau. On disait qu'il y avait une mère... Pour cette planète, il y a une mère pour le système solaire, il y a une mère pour la galaxie, et puis il y a une mère qui est l'ensemble de toutes les galaxies, de tout l'univers. Voilà, les étoiles, c'est une notion d'immensité. Même les marins ont beaucoup. Il y a beaucoup de représentations aussi féminines. À la proue des bateaux, il y avait des femmes qu'on représentait. Et Marie, ça vient aussi d'une racine marée, c'est la mer. Et ça a donné la mer.
MER.
MER et la mère et l'enfant. Donc il y a aussi toute une symbolique avec l'eau. Et on parlait tout à l'heure de l'eau terrestre et de l'eau céleste. Voilà, quelque part dans le ciel, on a exactement le même fonctionnement. On a une mer céleste, comme on a une mer terrestre. On a une eau céleste, l'akasha, et l'eau sur terre qui donne naissance. L'eau, c'est l'élément qui donne la vie par excellence, hein. Donc voilà pour les différents attributs, les différents archétypes. On a parlé de la lune aussi. Pourquoi on voit beaucoup de vierges mères avec un pied sur la lune? Ça veut dire qu'elle maîtrise la matière, qu'elle l'engendre elle-même. Parfois, c'est un serpent aussi. C'est-à-dire, c'est le désir aussi. Le serpent ici représente, quand il est au pied, représente les forces instinctives. Donc, elle domine aussi par sa pureté. Toutes ces forces-là. Et on a parlé aussi de quelques animaux, on a parlé des oiseaux, on a parlé aussi donc des phénix pour Xiuhuangmu, ou parfois ça peut être des paons, ça peut être divers animaux qui sont censés soit tuer des serpents, justement, comme le paon il tue les serpents, ou alors le phénix qui est un animal symbolique, un animal lié à la régénération.
Dans cette dernière partie, nous allons parler d'étymologie. On voit mer. Mer, ça vient d'une racine ma. Alors, dans quoi est-ce qu'on retrouve cette racine ma et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a amené?
Alors c'est intéressant, moi je pense que le sanskrit est à l'origine de beaucoup de... Enfin, est une des langues les plus proches de l'indo-européen primitif, et que même les langues semites ont été largement influencées par les langues sanskrites, par la langue sanskrite, et donc par des racines communes. On a le mot ma, le
Maman.
verbe ma, ça veut dire mesurer. Donc ça c'est intéressant, ma c'est mesurer. Et l'idée métaphysique, c'est que en fait, si la mère elle crée le monde, si elle est elle-même l'architecte, eh ben pour créer le monde, Platon disait Dieu géométrise, on mesure. Et les choses sont mesurables aussi, c'est-à-dire elles prennent de l'espace et du temps. Hein? La création, c'est l'espace-temps. Donc l'espace, on peut le mesurer. Dès qu'on sort du bing-bang, quelque chose apparaît, donc tu peux mesurer. Tu peux aussi mesurer une évolution, donc il y a un temps. Et ma, quelque part, c'est intéressant de voir que c'est la mesure. Alors ça donne en sanskrit matri, mata, qu'on retrouve dans mater, mother, la mère,
Maman.
maman, mama, maman. Et après, on a une autre racine qui va en dériver, c'est man, pensée. Donc là, on retrouve le lien entre la mère et la pensée,
Et
l'intelligence
l'intelligence,
universelle.
oui.
Voilà. Man, ça donnait man en anglais, l'homme. Parce que l'homme, c'est celui qui pense. Et man, c'est quelque part, c'est la mère qui nous a offert l'intelligence. Ça, je voudrais insister là-dessus parce qu'on voit trop la mère comme la bonne petite maman
Qui
sensible et
fait la
douce.
cuisine et qui racole
Voilà.
les chaussettes.
Mais non, la mère, dans beaucoup de traditions même, c'est elle qui elle instruisait l'enfant, au moins dans les petits âges, voire même plus vieux. Il y a eu même à l'époque du culte des mères, des temples dédiés à la mère divine, et puis il y avait même des prophétesses, on dit, des femmes devins, quelque part, qui aussi, certaines enseignaient aussi. Donc on a vraiment aussi un passé avec la femme qui initie, qui enseigne et qui développe l'intelligence en nous. Donc la racine man. Et on a le mot maya. Alors maya, il dérive directement de ma. Maya, c'est la substance. À la base, on parle dans les textes sanskrits de la Maya comme et même du pouvoir magique de la Maya. C'est la substance du monde qui est magique parce qu'elle peut prendre toutes les formes que l'on veut. Et par la pensée, on agit sur Maya, on lui donne une forme et on sait que la pensée est créatrice. On peut donner des formes dans la substance des énergies. On n'arrive pas à le voir dans le plan physique parce que les atomes, en fait, on voit pas, mais on les fait bouger par la pensée, mais pas assez pour qu'ils prennent une autre forme. Et on pourrait. On pourrait, avec une pensée puissante, même donner une autre forme aux atomes, ensemble. Mais en tout cas, si on le voyait, au moins énergétiquement, dans notre double éthérique, quand on pense, on produit des choses dans la Maya. Et dans la philosophie de Shankara, une philosophie moniste très abstraite, la Maya, ça a été après synonyme d'illusion. Parce que c'est pas l'esprit pur, c'est simplement son vêtement, son apparence illusoire. Donc maintenant, on traduit Maya par illusion. Mais à la base, Maya, c'est la substance du monde. Et c'est intéressant parce qu'on a dit qu'on retrouvait la mère de Bouddha qui s'appelle Maya. Et Maya avec un i tréma, c'est la mère de Hermès, qui est une sorte de fils de Dieu aussi, hein, Hermès, Mercure. Hein. Et on a des mots latins qui vont s'approcher, dériver peut-être de cette racine ma. On a mens, mens, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est le mental, ça donnait mind. Mensura, c'est la mesure en latin. Et la racine grecque mens, c'est mesurer. Et ça, c'est intéressant, ça produit des mots tels que moi, le moi, months en anglais, et moon aussi. Parce que les planètes servaient à mesurer les mois. En fait, nos mois, le mois, il est fondé à la base sur l'astrologie lunaire et sur le
Moi,
cycle de la Lune.
MOIS, hein.
MOIS, oui, tu as
Ouais.
raison de. Et donc, les planètes mesurent, et la Lune, par excellence, a été l'instrument de mesure, mais aussi pour les
Du
agriculteurs,
temps, oui,
pour plein de
exactement,
choses,
des
hein.
distances, oui.
Voilà, on s'est servi beaucoup de la Lune, donc la Lune, c'est encore une fois une manifestation de la mer, et c'est ce qui sert à mesurer, et donc il y a une notion de mind, de mental dedans. C'est-à-dire que le mental, il mesure dans notre esprit, et puis les planètes, elles mesurent aussi, quelque part, l'espace et le temps.
Et tout ça, c'est lié à la mer, alors.
Tout ça, ce sont des archétypes rattachés au
Parce que tu dis
principe de la.
ma, c'est mesure, mais est-ce que en sanskrit, c'est aussi lié à la mer?
Oui, parce que ça a donné toutes les racines, comme je disais, matri, mata, ou même on dit par exemple ama, ma anandamayi, ma anandamayi, c'est un avatar, c'était une femme qui représentait l'énergie de la mer. Son nom est très joli, c'est la mer, ma, ananda c'est la félicité, et mayi, on voit encore maya, mais c'est décliné au féminin, c'est une sorte de substance, la mer de la substance. De félicité, on pourrait dire presque,
Wow,
de la
superbe.
substance qui apporte Ananda, la joie, la félicité. Donc on
Superbe
a
nom.
tous les éléments féminins dans son prénom.
Alors, une autre racine, c'est la racine Aen.
Aen, Anne.
Anne.
Alors c'est intéressant parce que en hébreu, c'est ce qui va donner, ça veut, il y a une notion d'apparition, Anne. Alors on parle de nuée justement, hein, d'apparition, c'est comme un brouillard, une nuée, une manifestation. Et en sanskrit, an, c'est ce qui souffle, c'est le souffle, c'est la respiration, c'est respirer, souffler. Et on retrouve ça dans la notion de anima, animal.
Anima
C'est
mundi.
quelque chose qui est, voilà, l'âme du monde. C'est anima, c'est l'âme, et ça donnait le mot animal. C'est quelque chose qui est animé par une âme, par un souffle, quelque chose qui han dedans, han qui respire. Et on retrouve encore cette notion de Saint-Esprit avec Anne, parce que le mot hébreu, ruach, c'est un souffle. Ça a donné le mot Saint-Esprit. Hein. Ruach à Kodesh, si je me souviens bien, c'est le souffle sacré quelque part. Et le mot Anne, après, a pris un sens de nourriture, le substantif Anne. Et on a la déesse comme Annapurna, qui a donné son nom
La
à la
montagne.
montagne. Purna, c'est plein, celle qui est pleine de nourriture. Donc on voit encore une mer abondante, une mer généreuse qui donne. Et on a même la mère de Marie qui s'appelle Anne, et à mon avis qui vient de cette racine-là. La mère de Marie, elle, quelque part, elle représente le Saint-Esprit vis-à-vis de Marie. On parlait avant même de Trinité mariale parce qu'on représentait, c'est interdit. Maintenant, je sais que l'Église n'aime plus ça pour pas justement confondre avec la vraie Trinité. Mais en peinture, la Trinité mariale, c'était représenter Anne, Marie et Jésus. Et on a la très belle peinture de Léonard de Vinci, hein, où on voit la Vierge enfant Jésus et Sainte Anne. Et on voit derrière Sainte Anne les montagnes. Donc c'est
Alors, il y a toujours
intéressant.
des montagnes aussi.
Les montagnes, et on voit beaucoup de déesses associées à des montagnes blanches. On parle de Dame Blanche chez les Celtes, Diana. Diane la chasseresse, qui est aussi associée aux montagnes, Parvati, elles sont associées donc à cette. Donc il y a un élément matériel très fort dans la montagne, mais elles sont blanches, elles sont pures, encore une fois. Donc les ânes, eh ben, elles nourrissent. Elles apportent la nourriture. Pour conclure, pourrait peut-être faire une petite ouverture sur cette notion de Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit en nous? C'est, je pense, le souffle de Dieu qui est en nous. C'est comme si Dieu soufflait en nous. Ce fameux Saint-Esprit, ce souffle sacré. Et si on voulait faire un parallèle entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans la création, donc le Saint-Esprit, c'est Dieu qui souffle dans la matière et ce souffle, il nous atteint. C'est intéressant de voir que esprit, spiritus, il y a une notion de souffle dedans. Il y a le souffle.
Oui, alors pour moi, le souffle, c'était le souffle divin, c'était plutôt un symbole masculin.
Oui, c'est vrai, mais quelque part, Dieu se manifeste dans le monde, dans la nature, dans l'univers, et il passe par, il devient l'Esprit Saint, comme on a dit, à travers la mer. Et on peut, d'une autre manière aussi, considérer qu'il y a cette présence aussi de la Shakti, de la mer en nous, par ce souffle, ce qui nous anime, ce qui nous donne vie. Mais je suis d'accord avec toi, à l'origine, c'est un principe plus lié au Père, bien que pour les gnostiques chrétiens, le pneuma, le spiritus, donc le Saint-Esprit, il était beaucoup rattaché à Sophia, hein, au principe féminin. C'est comme si c'était là, ici, le féminin, fallait le comprendre comme la présence de Dieu le Père en nous. Ce qui nous inspire, nous anime, nous guide.
Dans cette émission, nous avons parlé donc de la mère du monde, de ses nombreuses qualités. Hein. C'est celle qui enfante, qui instruit, qui amène la sagesse, qui nourrit, qui élève finalement. Ben voilà, c'est un très beau principe, le principe féminin.
Oui, très très beau, et c'est un principe qu'il faut défendre, protéger, y compris les femmes, y compris les petites filles, les personnes âgées, féminines, voilà, toute la manifestation du féminin. Je pense qu'on va, au fur et à mesure, retrouver le sacré et le respect du féminin.
Merci David.
Merci Dominique, merci à tous.